L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct de l'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France, 5e édition, édition 2023. On y est, bien sûr, pendant ces deux jours avec Radio Imo. On va parler économie justement dans l'immobilier avec un spécialiste, en tout cas de l'économie. C'est Patrick Artus. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous êtes conseiller économique de Natixis. Tout à l'heure, vous avez participé à une table ronde sur la croissance et sobriété. Comment est-ce qu'on concilie tout ça? On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, on s'intéresse à ce qui nous intéresse ici sur notre plateau. On va faire un petit tour sur la planète IMO en ce qui concerne l'économie. On a eu des gros titres pendant cet été, notamment sur une alerte en Chine avec des promoteurs qui tombent comme des dominos. Est-ce que c'est inquiétant ?
Oui, alors c'est inquiétant parce que ça va être durable, c'est pas un problème cyclique. Le problème majeur de la Chine, c'est le vieillissement démographique. On est passé en 10 ans d'une situation où la population en âge de travailler, ce qui en Chine veut dire de 20 à 60 ans, vous savez que l'âge de la retraite est 60 ans, augmentait de 2% par an, à une situation où cette population en âge de travailler baisse de 1% par an et même un peu plus.
Et ça veut dire qu'on assiste à un vieillissement accéléré de la population chinoise.
On a un vieillissement très élevé, très important de la population chinoise. Et vous savez que les prévisions consensuelles, c'est un horizon assez long pour faire des prévisions, mais c'est de dire qu'il y aura moins de Chinois que d'Américains à peu près entre 2075 et 2080. Hein. Donc il y a un effondrement de la population en Chine. Et la conséquence, alors l'autre élément du puzzle, c'est que les Chinois ont utilisé largement l'immobilier résidentiel pour préparer leur retraite. Le système de retraite en Chine ne verse que 4 points de PIB par an de retraite. À nouveau, en France, c'est 14, hein, pour un exemple.
Donc il y a peu de retraite, finalement, et les Chinois ont constitué avec l'immobilier.
Oui, la bourse chinoise est très volatile, fait peur, et donc attire pas beaucoup de Chinois. Et l'investissement l'investissement essentiel des Chinois pour préparer leur retraite, c'était des biens immobiliers. Et ils se sont endettés pour acheter des biens immobiliers pour avoir cet immobilier à revendre après leur retraite. Résultat, quand vous avez une économie qui vieillit, vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs d'immobilier. Il y a peu d'acheteurs parce que c'est les jeunes et il y a plein de vendeurs parce que c'est les gens qui prennent leur retraite. Et vous avez une baisse structurelle des prix de l'immobilier. Les statistiques officielles disent que c'est quelques points de baisse par an. Les statistiques officieuses disent que c'est au moins 10% de baisse des prix de l'immobilier par an en Chine. Et c'est une situation durable qui va appauvrir les Chinois et qui crée, bien entendu, cette chute des prix de l'immobilier, la chute de l'activité de construction, crée un gros problème aussi chez les promoteurs immobiliers. Hein.
Ça pourrait avoir un effet justement sur les marchés financiers, sur la bourse, ça pourrait avoir un effet domino ou pas?
Non,
pas trop.
Je ne crois pas à l'effet domino parce qu'on a regardé par exemple l'exposition des grandes maisons de gestion américaines, des BlackRock, etc., à l'immobilier chinois, c'est quelques centaines de millions de dollars. Hein, donc, par exemple, la dette immobilière en Chine, c'est 30% du PIB. Enfin, c'est une dette considérable. Mmh. Donc, il n'y a qu'une très peu faible fraction de cette dette qui est détenue en dehors de Chine, en fait. C'est un problème.
Il n'y aura pas d'effet contagion comme en 2008
Non, et les interrelations entre les banques chinoises et les banques internationales sont assez faibles. Non, c'est un gros problème pour le secteur financier chinois. On voit déjà apparaître une baisse des marges bénéficiaires des grandes banques chinoises, par exemple, qui font des pertes sur l'immobilier. Mais ça va durer, parce que la Chine, bizarrement, n'a pas prévu les effets du vieillissement démographique. Vieillissement démographique, enfin, la démographie, c'est une variable qui est assez prévisible à 20 ans ou 30 ans d'avance. Hein, et il n'y a à peu près rien qui a été fait pour développer la protection sociale, développer les systèmes de retraite, prévenir les Chinois qu'investir dans l'immobilier, ce n'était pas une bonne idée parce qu'ils seraient tous vendeurs en même temps. Mmh. Et donc, il y a une mauvaise gestion du vieillissement démographique qui est assez impressionnante.
Et ça risque de durer, vous dites, Patrick Artus, effectivement, en Chine, mais ça va rester en Chine. Alors, si on revient sur notre pays, en France aussi, on a nos difficultés, alors qu'elles sont moins grandes, quoique on parle d'une baisse chez les promoteurs immobiliers dans le neuf de 40%. Toutes les fédérations de l'immobilier, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Où est-ce qu'on en est de cette situation? Pour toi, comment vous l'interprétez? Là aussi, ce déficit, bien sûr, il y a les taux qui ont énormément monté. Est-ce que c'est le seul élément ou est-ce qu'on était arrivé finalement à un niveau de prix un peu trop élevé?
Si vous faisiez une comparaison France-Allemagne, par exemple, les taux d'intérêt sont à peu près les mêmes, et même ils sont un peu plus bas sur l'immobilier français qu'en Allemagne. On doit être autour de 3,50 aujourd'hui, et dans le reste de la zone euro, on est autour de 4 sur les taux des prêts immobiliers. Et surtout, les niveaux de prix de l'immobilier en France sont beaucoup plus élevés qu'en Allemagne. Ouais. Et donc, on a par cette hausse de taux beaucoup de primo-emprunteurs qui peuvent malheureusement plus emprunter. On chiffre en général à entre 25 et 30% le pourcentage des gens et des primo-emprunteurs qui pouvaient emprunter quand les taux d'intérêt étaient juste au-dessus de 1%, il y a 2 ans, par rapport la proportion des primo-emprunteurs qui peuvent emprunter au taux d'aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est un marché qui est en chute naturelle de 25 à 30%.
Est-ce que ça veut dire qu'on va s'ajuster par les prix et qu'on va avoir mécaniquement une baisse?
C'est pas sûr, parce que il y aura une baisse de prix, mais qui sera insuffisante pour rééquilibrer le marché, parce que il y a quand même une rareté structurelle de l'immobilier en France. On construit pas assez depuis de nombreuses années. Et donc les baisses de prix, oui, il y aura une baisse de prix peut-être de 10%, mais elle ne sera pas suffisante pour rééquilibrer le marché. Et donc c'est un effet volume plutôt, hein, c'est un effet de baisse de la construction, quoi, et des mises en chantier.
C'est ce qu'on voit bien, et Patrick Martin, juste alors dans son allocution d'introduction, a bien dit, on voit cette crise qui touche quand même une grande partie du secteur, puis bizarrement la réponse du gouvernement, pour l'instant... Elle n'est pas forcément là.
Je crains que Emmanuel Macron n'a pas d'affinité avec l'investissement immobilier. Il a toujours considéré, il l'a dit d'ailleurs dans son premier quinquennat, que l'investissement immobilier, c'était moins favorable pour l'économie que l'investissement dans le capital des entreprises. Donc je ne suis pas sûr que ce gouvernement a un ADN de défense de l'immobilier.
Il avait même dit, c'est un paradis pour les promoteurs d'immobilier, pour l'immobilier en général.
Et puis on a l'IFI et on n'a plus d'ISF. Donc je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de défense du secteur de l'immobilier par des mesures de politique publique.
On verra en tout cas, on va suivre ça très attentivement. Un petit détour sur le thème que vous avez abordé tout à l'heure. Rareté des ressources, comment concilier croissance et sobriété? Alors on ne va pas refaire la plénière qui a duré à peu près 45 minutes. Mais c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui. Une vraie question dans le sens où on a pris la mesure de la nécessité d'avoir des ressources. Voilà, on en a été privé. On a vu sur le gaz russe qu'il fallait quand même sécuriser cet approvisionnement. Et en même temps, est-ce qu'on va pouvoir continuer à consommer? Comment on fait? Comment vous voyez la situation, Patrick Artus?
Alors, deux réponses. D'abord, il faut arrêter de soutenir la consommation pour soutenir l'investissement. On a un besoin d'investissement pour la transition énergétique, pour la gestion de l'eau, pour le maintien de la biodiversité, probablement de 5 points de PIB par an. Et donc, les politiques qu'il faut mener, c'est des politiques qui développent l'épargne et qui permettent un financement à des taux d'intérêt raisonnables de l'investissement. Ce ne sont plus des politiques de soutien de la consommation. Et donc, il y a toujours cette difficulté. Effectivement, les Français souhaitent que le gouvernement soutienne la consommation. Mais la réalité économique, c'est que pendant 20 ans, probablement, on aura besoin d'investir considérablement plus parce qu'on va jeter du vieux capital brun qui utilise déjà le fossile, et on va le remplacer par du capital vert pour 5 points de PIB par an.
Alors je précise, parce que les 5 points de PIB, ça parle à l'économiste que vous êtes, PIB de la France, 3 000 milliards, ça fait 100 à 150 milliards par an.
Ça, 5 points de PIB, ça fait 150 milliards d'euros par an.
C'est des
investissements
de
en plus.
Voilà.
Alors pas que énergétique, énergétique pour l'eau, etc. Et donc, il faut vraiment faire un effort d'investissement, comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et la fin des années 50. On a investi énormément, on a peu consommé, et on a fait un effort de reconstruction du capital considérable. C'est un effort de reconstruction comparable qu'il faut faire aujourd'hui.
C'est un New Deal, finalement, vert.
Le capital n'est pas détruit, mais simplement, il faut le jeter. On ne peut plus s'en servir. Donc, ouais. Effectivement, la situation, enfin, l'autre branche de l'alternative, ça serait de ne pas respecter nos engagements de réduction des émissions de CO2 et de continuer à utiliser les énergies fossiles, mais je ne crois pas que ce soit possible. Et les Français, et les Européens, et les Américains, et tout le monde voient
les conséquences
du réchauffement climatique. Donc je crois qu'on respectera les engagements internationaux, et que donc on va avoir, si on ne veut pas rationner l'énergie, on va avoir un besoin d'investissements considérables. Donc la priorité, c'est de réaliser ces investissements.
Alors ces investissements, ils se font comment? Parce qu'on a bien vu le MEDEF, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a dit, nous, on contribue déjà beaucoup. Est-ce qu'on doit encore supporter des nouvelles taxes pour financer tout ça? D'où va venir tout cet argent?
Si je prends la zone euro, parce que le capital circule dans la zone euro. La zone euro a un léger excédent extérieur. Donc elle peut utiliser cet excédent extérieur pour investir davantage. Donc si on a par exemple un point de PIB d'excédent extérieur, on n'a besoin que 4 points de PIB d'investissement supplémentaire. Donc il faudra que la zone euro investisse 4 points de PIB de plus.
Ça sera un effort comment?
Et ça sera un effort qui sera partagé entre les ménages qui probablement épargneront plus parce qu'ils seront inquiets pour les perspectives climatiques, parce qu'ils sont inquiets pour les perspectives économiques. Et d'ailleurs, on a un taux d'épargne des ménages dans la zone euro et en France en particulier qui est très élevé, qui sera partagé entre les entreprises qui devront consacrer une plus grande partie de leurs profits, c'est-à-dire distribuer moins de profits et consacrer une plus grande partie de leurs profits pour faire ces investissements climatiques. Et puis, le solde, ce sera malheureusement une nécessité d'augmentation de la pression fiscale. Parce que les trois ressources qu'on peut mobiliser pour faire des investissements, c'est l'épargne des entreprises, l'épargne des ménages et les impôts,
les impôts
redistribués par l'État.
Et ben voilà, après le quoi qu'il en coûte, qui coûte beaucoup d'ailleurs, il va falloir financer cette transition, et on l'a bien compris, ça sera un effort collectif. Merci en tout cas pour cet éclairage, Patrick Arthus. Je rappelle que vous êtes conseiller économique de Natixis. À très bientôt sur Radio Immo, sur notre antenne.
Merci beaucoup.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.